pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y a aujourd'hui 150 ans exactement qu'eut lieu la séance royale.
Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, 14 juillet 1937.
Ce jour-là, le roi Louis XVI, admettant les principes du régime constitutionnel et les droits essentiels de l'homme et du citoyen réclamés par les trois ordres sans distinction, reconnut que la révolution de la liberté était vraiment nationale. Mais en se prononçant pour le maintien des privilèges et des prérogatives de l'aristocratie, il marqua l'objet propre de la révolution de 1789, qui fut celle de l'égalité dans la liberté.
Salut tout le monde, c'est avec la voix de Jean Zay rendant hommage à la Révolution française que s'ouvre cette série d'émissions dédiée au plus flamboyant des ministres du gouvernement de Front Populaire de 1936. Jean Zay, jeune ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, seulement 32 ans en 1936, Jean Zay nous a laissé un précieux héritage plus que jamais d'actualité. Les trois degrés d'enseignement, l'unification des programmes, prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans, classe d'orientation, activité dirigée, enseignement interdisciplinaire, reconnaissance de l'apprentissage, sport à l'école, œuvre universitaire, les bibliobus et même un projet d'ENA. Et en tant que ministre des Beaux-Arts, on doit aussi à Jean Zay la création du CNRS, du Musée National des Arts et Traditions Populaires, du Musée d'Art Moderne, du Palais de la Découverte, la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux, le Festival de Cannes, car c'est aussi Jean Zay qui invente tout un tas de mesures pour protéger les créateurs de cinéma français, y compris de courts-métrages. Mais au-delà de ces réalisations concrètes, l'histoire de Jean Zay est un héritage d'intelligence, d'humanisme, de courage et de lutte contre les barbaries fascistes. Cet incroyable héritage de Jean Zay qu'on connaît bien mal alors qu'on lui doit tant, nous le survolons aujourd'hui avec Hélène Moucharzet, l'une des deux filles de Jean Zay. Bonjour madame.
Bonjour.
Évoquer l'héritage que Jean Zay nous a légué, c'est au-delà du Front populaire de 36, embrasser de larges et sombres périodes de notre histoire de France. Tout d'abord, comme bien d'autres pays, la France de 36 est traumatisée par la récente et grande boucherie de 14-18 qui a eu lieu il n'y a même pas 20 ans. 1 300 000 Français assassinés qui inspireront un très fort mouvement pacifiste, plus jamais la guerre, même face à Hitler. Sur le plan économique, comme bien d'autres nations, la France de 36 est un pays encore chancelant qui continue à subir les conséquences de la très grave crise mondiale engendrée par le krach boursier de 1929. Beaucoup de chômage, beaucoup de tensions sociales donc, notamment vis-à-vis des immigrés, et en particulier vis-à-vis de ces juifs des pays de l'Est venus en France se mettre à l'abri des persécutions. Même si elle reste officiellement une république démocratique, la France des années 30 est aussi un pays où l'antisémitisme prospère. En 36, il y a près de 40 ans que l'affaire Dreyfus a profondément divisé l'Hexagone, et en cette période de crise économique des années 30, pour les enfumeurs de tout poil, les juifs restent les pratiques et traditionnels boucs émissaires qu'on a fait d'eux depuis des siècles. À l'international, en 36, avec l'Angleterre et la République tchèque, qui va d'ailleurs 2 ans plus tard être livrée aux nazis lors des accords de Munich, la France est donc l'une des rares démocraties dans une Europe littéralement couverte de régimes totalitaires. L'URSS des purges de Staline, bien sûr, mais du côté fasciste, Allemagne, Italie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Grèce, Portugal, et bientôt l'Espagne, dévorée par le putsch du fasciste Franco, soutenu par Hitler et Mussolini, avec la complicité des milieux financiers occidentaux, qui sont les vrais maîtres des démocraties, et qu'en France on appelait le mur de l'argent ou les 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles.
La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent.
Dans cette fin de Troisième République française sans stabilité gouvernementale et qui agonise dans les scandales à répétition, pullulent aussi les partis et organisations d'extrême droite, fascistes et fascistoïdes. La grande manifestation d'extrême droite du 6 février 1934 qui menace le Parlement est d'ailleurs à l'origine de la création de la fragile coalition de Front Populaire qui réunit les frères ennemis socialistes et SFIO et les communistes, jusque-là brouillés par la trahison commise en 14 par les socialistes ayant voté les crédits de guerre avec la droite dans le cadre de la prétendue Union sacrée. Et dans le Front Populaire se trouve également le Parti Radical, dont Jean Zay est un militant. Évoquer l'histoire de Jean Zay, c'est aussi évoquer l'élan de vie, d'intelligence, d'enthousiasme, d'espoir engendré en 1936 dans le peuple et par le peuple qui va, en se mettant en grève générale, pousser syndicats et gouvernements de Front Populaire, plutôt mous et sans réel programme, à négocier les conquis sociaux de la semaine de 40 heures, des conventions collectives et des congés payés. Ces conquis, c'est le peuple seul qui les a obtenus, pas Léon Blum qui n'a fait que suivre la demande de la base avant de rapidement calmer le jeu du changement.
Le gouvernement de Front Populaire agira dans le cadre de la société actuelle, mais avec la volonté délibérée d'en extraire tout ce qu'elle peut comporter d'ordre, de sécurité, de bien-être et de justice.
Heureusement que ce Front Populaire sans réel projet avait dans ses rangs des jeunes gens aussi brillants que Jean Zay ou Léo Lagrange.
Quand on se promène au bord de l'eau.
Mais avec l'espérance d'une société meilleure, évoquer la mémoire de Jean Zay, c'est aussi évoquer ce qu'il a tué, au-delà des figures de miliciens français qui l'ont lâchement assassiné en juin 1944. Car sans même attendre la propagande de Vichy, la presse de droite des années 30 fit de Jean Zay l'ennemi archétypal de la France, caricature du pervers judéo-bolchévique qui distille sournoisement le chaos dans l'esprit des jeunes. Et ce qui se disait déjà ouvertement dans les années 30 se dira d'autant plus dans la propagande raciste du régime fasciste du maréchal Pétain.
Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française.
Ce pan d'histoire de France, du Front Populaire à Vichy, que vous allez survoler grâce à la figure de Jean Zay, démarre avec la naissance de ce dernier à Orléans en 1904, à l'époque de l'affaire Dreyfus et à l'orée de la grande boucherie de la Première Guerre mondiale. Alors Hélène Mouchardet, votre père, Jean Zay, est issu de ce qu'on appelle, disons, la petite moyenne bourgeoisie française. Le père de Jean Zay était directeur d'un journal qu'il avait lui-même fondé, un milieu aux valeurs républicaines, progressistes, plutôt bourgeoise, mais un milieu modeste.
Son père, Léon Zay, était en effet journaliste qui était issu d'une famille de juifs alsaciens qui ont quitté l'Alsace au moment où celle-ci est devenue allemande, hein, au moment où elle a été annexée par l'Allemagne à la fin de la guerre de 70. Et donc, c'est à ce moment-là que cette famille vient à Orléans. Et puis, du côté de sa mère est protestante, elle est institutrice. Ce sont des gens... assez modeste. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand Léon, quelques années plus tard, va partir faire la guerre, sa femme est obligée de reprendre le métier d'institutrice pour faire bouillir la marmite, comme on dit. Donc, une famille profondément ancrée dans la tradition républicaine. Hein. Ces familles de juifs alsaciens qui sont vraiment plus républicains que les républicains. Les protestants qui ont aussi une tradition de persécuter. Et je crois qu'il y a une double ascendance de gens persécutés chacun à leur façon. Du côté de ma grand-mère, c'était des protestants qui s'étaient mariés dans le désert au moment de la révocation de l'indulgence, etc. Enfin, il y a ça qui est dans la famille, une tradition familiale. Donc Léon, mon grand-père, devient journaliste et arrive le moment de l'affaire Dreyfus. À Orléans, l'affaire Dreyfus a été très violente. Il y a eu des manifestations très violentes et il y avait à l'époque 3 journaux locaux, tous anti-Dreyfusards. Et à ce moment-là, donc quelques jeunes gens, dont mon grand-père Léon Zay, il a eu un rôle important, décident de créer un journal, créé en 1898, pour défendre Dreyfus. Donc c'est la tradition dreyfusarde aussi. Et le petit garçon qui naît en 1904, ben, il va naître dans cette ambiance-là. Il était très souvent à l'imprimerie, qui était d'ailleurs rue des Carmes à Orléans. Et très tôt, il a été fasciné par son père. Il y a une histoire d'amour filial entre le père et fils qui va durer jusqu'à la fin et qui est magnifique. Hein, admiration réciproque, amour entre les deux, etc. Arrive la guerre de 14. Le petit garçon, donc, qui a 10 ans, en 1914... Ben d'abord, il va être comme tous les petits garçons de ce temps-là, c'est on leur insuffle un patriotisme.
Ah,
comme tous les petits garçons aussi, je pense qu'il a dû être angoissé, puisque je suppose que les enfants de cette époque-là devaient se demander toujours s'ils allaient revoir leur père vivant. Et ce jeune garçon, à partir de 1916, il va écrire un journal lui-même sur un cahier d'écolier, mais il fabrique un vrai journal avec des colonnes, enfin composé comme un journal. Il écrit tout. Toujours en première page, il y a des nouvelles du front, parce qu'il suit ça de très près, ce qui montre quand même une certaine maturité. Et puis après, il y a des nouvelles très diverses, parfois son anniversaire. Ou ça va des nouvelles les plus importantes pour le pays à des petits événements familiaux. Et c'est très bien écrit. Donc il va faire ça pendant plusieurs années. Et à mon avis, ça lui a permis de conjurer un peu l'angoisse, hein, en suivant jour après jour les étapes de la guerre. De cette façon-là, il est assez actif, il est un peu avec son père d'une certaine façon.
D'entrée de jeu, l'écrit, l'intellectuel est une ossature, une force, quoi.
Très tôt, on a une lettre où il avait 12 ans, il écrit à sa grand-mère et il signe Jean Zay, romancier. Et puis, il va avoir un prix au certificat d'études, enfin, sa composition, au lycée. Ensuite, il fait ses études secondaires ici à Orléans, au lycée Potier. C'est un lycée brillant, boursier, hein, ce qui vous montre que ce n'est pas une famille si bourgeoise que ça, puisque c'est une famille moyenne. Et il va avoir un prix au concours général en composition française, comme on dit. Donc, ça montre très tôt son goût de l'écriture. D'ailleurs, quand il sort du lycée, il va avoir son bac assez brillamment. Il engage des études de droit et très vite, il va écrire dans le journal de son père. Et cette activité de journaliste va continuer. Il va écrire des chroniques régulièrement jusqu'à ce qu'il devienne ministre. Et là, où il n'aura vraiment plus le temps. Mais il a écrit des dizaines et des dizaines de critiques. Alors, il est obligé de gagner sa vie, donc il est clerc de notaire. Donc, il avait une triple activité dans sa journée. Il était journaliste une bonne partie du temps, parce que ça le passionnait, et clerc de notaire. Et puis, les études de droit qu'il engage, c'était le soir, hein, ce qui prouve que ce n'est pas ce qu'il passionnait le plus, mais il devient avocat. Alors, il va ouvrir un cabinet d'avocat, et qui va devenir assez rapidement connu. Et en même temps, donc très jeune, dès qu'il est majeur, il s'inscrit au Parti radical comme son père. Il va tout faire comme son père. Il s'inscrit au Parti radical comme son père. Il entre en franc-maçonnerie à la loge Étienne Dolé au Grand Orient comme son père, la même loge que son père. Donc il est journaliste comme son père. Et puis il va s'engager dans des associations, la Ligue des droits de l'homme par exemple, ou bien la Libre Pensée. Bref, tout de suite on voit d'abord ce désir de s'engager, et s'engager pour les droits, enfin on voit bien ses choix là, y compris dans son activité d'avocat. D'ailleurs, il va beaucoup défendre des syndicats, des associations, etc.
Le Parti radical, qui reste fidèle à ses doctrines et à ses traditions, mais qui se tourne résolument vers les jeunes générations et qui les invite à travailler avec lui pour perfectionner la République.
Jean Zay va donc s'investir en politique à la gauche du Parti radical, parti dit lui-même de gauche, du moins à ses origines, mais qui a beaucoup évolué vers la droite.
Alors, Parti radical, ça, oui, il
on
faut...
On imagine les bouffes curées, 1905,
oui,
des choses comme
ça. Le Parti radical, c'est un petit peu ça, le grand parti de la Troisième République, parti considéré surtout quand arrive la fin des années 20, début des années 30, parti de gouvernement, beaucoup, et puis qui s'est notabilisé beaucoup. Et justement, mon père, avec quelques jeunes gens amis, il va essayer vraiment de le réveiller et de l'engager plus à gauche, de l'ancrer plus à gauche. D'ailleurs, il va être l'un de ceux qui va vraiment militer pour l'adhésion de ce parti au Front Populaire un peu plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les jeunes turcs. L'aile gauche du Parti radical qui veut dépoussiérer ce parti, lui faire prendre des positions très à gauche et s'engager beaucoup plus que ce qu'il faisait jusque-là. Il y avait une tentative à la droite de ce parti de s'allier, et d'ailleurs ça a été le cas, de s'allier à des gouvernements de droite. Donc lui, il est avec quelques-uns, dont Pierre Mendès-France en particulier, il est vraiment dans l'aile gauche du Parti radical. Tout ceci fait que localement, il va être distingué dans sa section locale. Et en 1932, arrive une élection législative et il va être choisi pour représenter son parti dans cette élection législative. Alors, il est très jeune, il a 26 ans, quoi. Il n'a jamais été élu, par définition. Moi, je soupçonne un peu son parti, comme souvent font les partis, d'avoir envoyé un jeune. C'est une circonscription qui n'était pas facile. Donc, vous savez, on envoie souvent les jeunes, non pas au casse-pipe,
Et voilà, circonscription difficile, un adversaire de droite bien ancré dans la vie locale, qui est propriétaire d'un journal, et qui engage tout de suite une campagne très dure, enfin, où commencent des attaques antisémites.
Les propagandes de droite vont donc tenter de faire incarner par Jean Zay le fantasme archétypal de l'anti-France, le judéo-bolchévique franc-maçon. La propagande de Vichy sera délirante, particulièrement sur le sujet de la franc-maçonnerie.
Mes frères, le profane Avenel, qui nous est recommandé par notre frère Gainsbourg, vice-président de la Chambre, est député. Cela ne nous impressionne pas. Nous devons surtout examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance.
Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple?
C'est un profane qui demande à être interrogé, vénérable maître.
Monsieur, vous avez déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie. Mais nous désirons savoir qui vous êtes. Consentez-vous à cet interrogatoire?
J'y consens.
Monsieur, croyez-vous en Dieu?
Et pourquoi?
Alors Hélène Moucharzé, pour reprendre cette propagande très ancrée dans les années 30, Jean Zay était de gauche, donc forcément un affreux bolchevique, juif, donc forcément corrupteur et profiteur de la France, et franc-maçon, donc forcément conspiro-comploteur, portant chapeau pointu le soir au fond des cryptes. À moins que les authentiques loges maçonniques ne soient que des associations d'humanistes qui étudient et échangent le fruit de leurs réflexions dans une certaine discrétion, car les idées progressistes, notamment celles des Lumières, ne sont pas toujours au goût du pouvoir.
La franc-maçonnerie, d'abord, il y a plusieurs obédiences. Le Grand Orient de France est une des obédiences, mais il y en a d'autres. Il y a la Grande Loge féminine de France, etc. Il y en a plusieurs. C'est des humanistes, oui, qui se réunissent pour discuter des grands sujets de société. Donc il y a des règles de discussion qui font que les gens s'écoutent les uns et les autres. La déloge, c'est simplement la réunion de gens selon une ville, par exemple, ou parfois dans les grandes villes, un quartier. Donc la loge Étendelée, c'était le nom de la loge du Grand Orient à Orléans, mais il y en a d'autres un peu partout. Chaque obédience a ses particularités. Là. Mais disons qu'on rencontre là des gens qui ont envie de réfléchir à la société contemporaine, d'échanger, de travailler. On travaille beaucoup dans les loges. Et on est loin de toutes les caricatures que vous avez évoquées, et en particulier de cette fameuse légende que les francs-maçons s'entraident, sont d'une espèce de société secrète. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins maintenant, hein, une tradition du secret, qui est liée d'ailleurs aussi à une certaine histoire de la persécution. Il ne faut pas oublier que les maçons ont été persécutés par Vichy aussi. Mais actuellement, là, nous sommes en 2016, cette tradition du secret est beaucoup moins forte.
On en revient donc au jeune Jean Zay, âgé de 28 ans en 1932, et qui se lance dans le Loiret dans sa première campagne électorale pour devenir député sous les couleurs du Parti radical.
On est en 1932, donc c'est la première campagne législative, très violente, je l'ai dit. Il y a, dans les années 30, vous l'avez dit, un antisémitisme qui se développe beaucoup. Et même si d'ailleurs Jean Zay, il est juif par son père, mais sa mère est protestante. Mais il va être pendant toute sa carrière, en effet, la cible des antisémites pour qui il est le juif emblématique finalement. Sur l'antisémitisme, on sait à quel point il a été violent à la fin du 19e siècle, le début du 20e, l'affaire Dreyfus le montre bien. Mais pendant la guerre de 14, dans la mesure où les Juifs de France ont fait la guerre comme tout le monde, il y a eu un certain apaisement qui a continué dans les années d'après-guerre. Et puis, avec les années 30, l'antisémitisme repart avec violence, pour plein de raisons, mais en particulier parce qu'il va y avoir une émigration polonaise en particulier, de juifs polonais qui fuient leur pays parce que l'antisémitisme est d'une grande violence. Ça va jusqu'au pogrom, mais donc un certain nombre de juifs polonais se réfugient en France, qui est la patrie des droits de l'homme. Et il ne faut pas oublier que dans l'antisémitisme de l'époque, de ces années 30, il y a une composante xénophobe qui est très forte. En même temps que le juif, c'est l'étranger qu'on rejette. Lui, sa famille est française depuis génération. Il y a une association de généalogistes à Orléans qui a fait notre arbre généalogique. La famille Zay remonte jusqu'au fin du XVIe siècle. Vous voyez, alors en Alsace, hein, Moselle, Alsace.
Comparons le juif à un rat.
Propagande de Vichy, 1941.
Semblable au mammifère rongeur dont il partage la lâcheté et la cruauté sournoise, le juif porte en lui un irrésistible besoin de destruction. La puissance d'action du juif se manifeste dans la supériorité numérique de ses disciples. De même que la pullulation des rats porte atteinte à la salubrité des hommes.
L'antisémitisme, il ne faut pas oublier, il n'est pas né avec Vichy. Hein. Il est présent dans la société des années 30, il est présent dans la presse d'extrême droite. Aucune loi n'interdit des propos d'appel au meurtre antisémite, raciste, etc. Et la violence de la presse d'extrême droite est inimaginable pour nous. Et on voit ça dans des propos antisémites qui ont été tenus sur lui. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est celui qui a le pouvoir du juif de s'insinuer dans l'esprit de nos enfants, de les corrompre, etc. Donc, la thématique contre l'éducation nationale, elle est d'une extraordinaire violence. Donc, il avait en effet tout pour être haï déjà par l'extrême droite des années 30. C'est cette extrême droite, vous savez, qui va prendre le pouvoir avec Vichy. Une des premières victimes politiques de Vichy, ben, c'est Jean Zay, après De Gaulle. Mais De Gaulle, c'est un des premiers qui a été jugé, condamné de cette façon-là par Vichy.
Mais avant d'en revenir à l'avènement de Vichy après l'étrange défaite de 1940, retour 4 années avant sur le maigre programme avec lequel la fragile coalition de Front Populaire se présente en avril 1936 devant les électeurs. Si ce n'est la dissolution des ligues fascistes qui ont fait trembler le pays lors de la manifestation du 6 février 1934, le programme du Front Populaire est quasiment vide, y compris en matière de culture et d'éducation dont Jean Zay sera bientôt responsable en tant que ministre. Mais il ne le sait pas encore.
Pour ne prendre que le domaine de l'éducation, en effet, dans le programme du Front Populaire, il y a une seule mesure, c'est la prolongation de la scolarité de 13 à 14 ans. Point à la ligne. Et quand on voit tout ce qui va être fait justement par ce ministère, et ça dans d'autres domaines, on voit que finalement, ce qui compte, c'est ce qui va être fait. Il faut se rappeler aussi que le Front Populaire a duré un peu plus d'un an. Hein, et ensuite, Blum est revenu au gouvernement. Puis ensuite, en 1939, ce n'est plus le Front Populaire. Hein, alors, Jean Zay, il reste pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Il a beaucoup hésité. Hein, il a pensé à démissionner. Puis, à la demande même de son parti, il est resté. Et puis surtout, il est resté parce qu'il voulait tout faire pour que ce gouvernement, qui avait des tendances à calmer le jeu en disant « faut surtout pas se mettre à dos Hitler, faut surtout pas se mettre à dos Mussolini, etc. » Donc, il était prêt à toutes les compromissions, voire les accords de Munich, hein, avec ce ministre des Affaires étrangères, Georges Monnet, contre lequel mon père a lutté pied à pied au sein du gouvernement. Donc, en fait, il va rester dans ce gouvernement qui s'est droitisé pour résister de l'intérieur, si je puis dire. Hein. Mais pour revenir donc à ce que vous disiez, que en effet, le programme électoral ne rend pas compte du tout de tout ce qui va être fait.
Ce très vague programme éducatif du Front Populaire, c'est donc Jean Zay qui va, en quelques semaines, le remplir de mesures que nous connaissons toujours aujourd'hui. Or, chose étonnante, Jean Zay, qui est journaliste et avocat, n'est pas prof, ni même aucunement spécialiste des questions pédagogiques ou d'éducation.
Non, il ne connaissait pas spécialement les questions d'éducation. Il était plutôt généraliste, hein. Passionné par la politique extérieure, très arc-bouté sur la nécessité, dès 1933, de résister à ce régime qui vient de naître. Hitler est arrivé légalement au pouvoir, hein, et avec 33% des voix, ça, il faut toujours le rappeler. Mais il voit tout de suite le danger. Il est un de ceux qui disent, qui répètent, qui écrivent dans ses discours, il faut absolument ne rien céder.
Il a une maladie plus grave que l'aérophagie. Pareil que ça lui fait mal, il appelle ça l'espace vital. Quand il s'en rétrécit, alors il pousse des cris, éclate de fureur, il bave que ça fait peur. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau, alors il rentre chez les voisins, il faucheté sur son chemin. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau.
Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 30? Quelle a été la stratégie d'Hitler? Lancer des ballons d'essai pour voir s'il y avait une résistance. Par exemple, la réoccupation de la Ruhr, qui était interdite par le traité de Versailles. Hitler, il l'a dit lui-même. Il a envoyé ses troupes et il a dit, S'il y a une réaction, je les retire. Il n'y a pas eu de réaction, donc il est passé à l'étape suivante.
Je crois qu'à ce moment-là, en France, on est très occupé par des élections et on est plus occupé à lutter contre les bolcheviks et ces machins-là plutôt qu'à s'occuper de ce qui se passe.
Et surtout, surtout, on est très pacifiste. On mesure mal l'ampleur du pacifisme de ces après. Alors les gens ne voulaient plus de la guerre.
1,3 million morts côté français.
C'était un traumatisme absolu. Il y a un pacifisme qui va d'ailleurs conduire certains, y compris des hommes de gauche, à une évolution très, très douteuse. Et donc, surtout, si on dit quelque chose, on va avoir la guerre. Et qu'est-ce que c'est que les accords de Munich finalement en 1938 ? Ces accords absolument honteux où on va lâcher la Tchécoslovaquie pour laquelle pourtant on avait des accords. On a peur de la guerre.
En échange d'une illusion de paix qu'on n'aura pas de toute façon.
Et comme disait Churchill, vous avez accepté le déshonneur pour ne pas avoir la guerre, vous aurez la guerre et le déshonneur. Mon père, il est violemment contre les accords de Munich. Il s'oppose à Bonnet, là aussi, au sein du gouvernement. Et c'est tout ça, vous parliez du fait qu'il a été la cible de l'antisémitisme, de l'antimaçonnisme, mais aussi, et largement autant, parce qu'il était un vrai homme de gauche, du Front Populaire, et partisan de la résistance à Hitler depuis, à partir du moment où Hitler arrive au gouvernement. C'est-à-dire que la haine qu'il a poursuivie, si violente en effet, c'est à la fois une haine politique et une haine antisémite. Et l'une se nourrit de l'autre. Et aussi parce qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Or, dans la thématique antisémite, d'abord le juif le plus dangereux, c'est celui qui est invisible, qui s'est fondu dans la société française. C'est le cas de ceux qu'on appelait les Israélites, dont certains avaient perdu tout lien avec le judaïsme, mais qui étaient complètement intégrés dans la société française.
C'est un fantasme dans la propagande de Vichy, puisqu'il y a un document, quelqu'un s'exclame en disant « Ah, mais si les Juifs avaient la peau bleue !»
Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Oh, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue.
Épouvantable propagande raciste du régime de Vichy quelques années plus tard, mais on n'en est pas encore là. Pour expliquer comment, en 1936, Jean Zay devient ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, il faut d'abord revenir à son élection de 1932 en tant que jeune député radical, poste où son intelligence, son courage politique et par la suite sa volonté de s'allier avec les socialistes et les communistes dans la fragile alliance de partis de Front Populaire le feront remarquer par Léon Blum.
Donc finalement, il va être élu, il devient député. Ben, il va faire son boulot député et au sein de son parti, il a une ascension assez foudroyante. C'était un très bon orateur de l'avis de tous ceux qui l'ont entendu. Donc il se fait remarquer, si bien qu'en 1935, il va être désigné comme rapporteur de son parti. C'est le congrès de Wagram de 1935. Il est rapporteur de la politique générale. C'est la raison pour laquelle, au début de 1936, il est appelé comme sous-secrétaire d'État auprès du gouvernement d'Albert Sarraut. Les élections vont arriver. Il est réélu, cette fois-ci brillamment. Pendant tous ces mois, il défend ardemment l'adhésion de son parti au Front Populaire, ce qui n'allait pas de soi, parce que l'aile droite dont je parlais tout à l'heure n'était pas pour. Et il va être un des artisans du Front Populaire. Alors d'abord ici à Orléans, où il dit à un moment que dans le Loiret, ils ont fait le Front Populaire avant l'heure, et puis ensuite au niveau national. Arrivent les élections, la Chambre est élue, Blum est nommé président du Conseil, et là, il y a quelques semaines, parce que vous savez, entre les élections et le moment où le gouvernement est formé, il y avait plusieurs semaines, une espèce de transition. Et là, il va se faire remarquer parce qu'il va, au fond, faire le lien entre l'ancien gouvernement et le nouveau, avec beaucoup de diplomatie, et c'est sans doute la raison pour laquelle Blum va le choisir pour être ministre. Il raconte dans Souvenir et solitude, le livre qu'il a écrit en prison. Un soir, il est au café avec des amis, et puis il est appelé au téléphone. Alors il fallait aller dans la cabine au fond, parce qu'il n'y avait pas de portable. Donc il va dans la cabine, et là, il entend « Allô, ici, c'est Blum. Je veux un jeune à l'Éducation nationale, et je vous choisis comme ministre. » Il s'y attendait pas trop, c'est quand même une nouvelle qui... « Soyez à 19h ce soir à l'Élysée. » Il y va et là, il apprend qu'il est nommé à la tête d'un grand ministère, Éducation nationale, Beaux-Arts, dont il va faire une sorte de ministre de la culture, recherche scientifique, avec trois secrétaires d'État, dont deux femmes, Suzanne Lacor et Irène Joulet-Curie, alors que les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, mais c'était la première fois que des femmes étaient ministres, donc c'est un gros événement. Et puis le secrétariat de Léo Lagrange, sport et loisirs, va être attaché, je crois que c'est en 37, au ministère de l'Éducation nationale. Donc vous voyez, c'est un gros ministère, et donc va commencer la période du ministère. L'éducation pour le Front populaire, c'est un enjeu essentiel, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce projet politique du Front populaire, l'éducation et la culture sont à la base de ce projet parce qu'ils sont facteurs d'émancipation du citoyen, que ce soit l'éducation ou la culture. Et pour Blum, il est évident qu'il faut, alors il faut un jeune, c'est sûr, mais ça ne suffit pas, il faut quelqu'un qui ait du talent, et il a montré ses qualités juste comme député avant, et il veut quelqu'un, alors la jeunesse, ça ne suffit pas, je dis, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette période du Front populaire, c'est une période extraordinaire d'enthousiasme, où les gens espèrent, enfin, se disent que la politique peut changer quelque chose. D'ailleurs, elle va changer des choses fondamentales. Les congés payés, hein, pour la première fois, des ouvriers ont des vacances alors qu'ils n'en avaient jamais. Et puis beaucoup d'autres choses. Hein. Vous, dans votre introduction tout à l'heure, vous disiez que, bien sûr, le Front populaire n'a pas, mais il a fait quand même des choses fondamentales. Hein.
Samedi 2 août, 8h du matin, l'immense salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare fourmille d'une animation tout à fait inhabituelle. C'est en effet dans un joyeux tohu-bohu que les premiers bénéficiaires des tout nouveaux congés payés se pressent vers le quai numéro 5, où ils ne tarderont pas à prendre d'assaut les wagons de 3e classe de l'express Paris-Dieppe. Pour nombre d'entre eux, cette expédition ferroviaire dégage un véritable parfum d'odyssée. Gageons que bien avant midi, dans chaque compartiment, au milieu des cannes à pêche et des épuisettes, on déballera le saucisson et le vin blanc avant d'entonner en chœur « Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine ou le lycée papillon ».
Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Podaran.
Présent.
Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qui est un ruminant. Et puis citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères tels que la langouste et le rat à dégoût, le cheval de bois, le poulet à belle-mère qui bat sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne.
Présent.
Vous connaissez bien la géographie, eh bien citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo, mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Cancrela.
Présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne 0. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
Le lycée Papillon, tube de 1936, signé Georgius. pour évoquer la démocratisation de l'école impulsée par les révolutionnaires réformes que le jeune ministre du Front Populaire, de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, Jean Zay, va insuffler dans la poussiéreuse institution scolaire. Car jusque-là, l'école de la Troisième République est avant tout une machine à reproduire les inégalités des classes sociales. Les élèves, même brillants, mais dont les parents n'ont pas les moyens, ne peuvent que très difficilement accéder aux études supérieures qui ne sont réservées qu'à une petite frange de la population qui peut se payer ces études. Cette école archaïque et inégalitaire, Jean Zay va en très très peu de temps, avec énergie, enthousiasme et beaucoup d'intelligence, tenter de la démocratiser, la moderniser, l'ouvrir sur le monde. Or, je vous répète la question, Hélène Moucharzé, pourquoi en 1936, Léon Blum fait-il de Jean Zay le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, alors que votre père, qui est journaliste, avocat, n'est pas spécialiste de questions d'éducation?
Pourquoi ça? D'abord, c'est vrai qu'il avait des qualités, une intelligence très aiguë, une faculté de synthèse, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme devraient le faire les hommes politiques, il sait s'entourer de gens qui connaissent bien. Le responsable politique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est spécialiste du domaine dont il est responsable. C'est quelqu'un qui s'entoure de gens qui ont réfléchi, qui connaissent le domaine, etc. Ensuite, il arbitre et ensuite, par la volonté politique, il agit et il fait advenir ces réformes-là. Mais par exemple, en 36, il y avait, années 20-30, une sorte de bouillonnement autour des questions d'éducation. C'est-à-dire, il y avait des gens qui réfléchissait, qui voyait bien qu'il fallait des réformes. Après Jules Ferry, l'école de Jules Ferry, il fallait réformer, que cette école n'était pas juste, etc. Il y avait des associations en grand nombre, et l'arrivée du Front populaire à la fois va développer toutes ces associations, et le ministre va s'inspirer de toute cette réflexion-là et va faire les réformes nécessaires pour appliquer. Alors, il ne va pas faire ça tout seul non plus, hein. C'est un travail d'équipe. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est qu'il va s'entourer de jeunes gens, remarquables absolument. Moi, je les ai connus après la guerre. Et à l'époque, c'était une équipe pleine d'enthousiasme. Ils sont devenus des amis. Bon, son directeur de cabinet, c'était Marcel Abraham. Il y avait Jean Cassou, qui est connu comme poète aussi, qui était à la culture. Il y avait Julien Quin qui s'occupait des questions du livre. C'est une équipe extraordinaire, si vous voulez. C'est des gens qui connaissaient le secteur dont ils s'occupaient. Et donc, ils vont arriver, en effet, à une série de réformes absolument extraordinaires. Je vais prendre un exemple pour montrer la méthode, parce que c'est très important, la méthode. Par exemple, la mesure, 13 à 14 ans, c'est la première réforme du Front populaire en matière d'éducation. Il décide ça en août 36. Mais contrairement à maintenant, il ne dit pas « bon, ça va s'appliquer en 1937, 1938 ». Il dit « ça s'applique à la rentrée, au mois de septembre ». On est en août. Donc vous vous rendez compte, il va falloir créer une classe nouvelle, donc il faut qu'il y ait des profs, aussi qu'il y ait des locaux. Et qu'est-ce qu'on va y faire dans cette école-là? Avec quel prof et formé comment? Il va dire à ses enseignants, qui vont donc inventer cette nouvelle classe, il va l'appeler la classe de fin d'études. Cette classe, elle doit être trois choses. Elle doit être un complément d'instruction, elle doit être un complément de culture, un apport culturel, et une préparation à la vie professionnelle. Voilà les trois directions qu'il donne. Il n'en dit pas plus. Et il dit à partir de là aux enseignants, ben vous avez les grandes lignes, ces trois-là, et à partir de là, ben vous inventez, vous réfléchissez, c'est vous qui connaissez les élèves, là où vous êtes. Donc, carte blanche, à condition que vous respectiez les trois pistes, vous avez carte blanche. Et puis, dit-il, dans quelques temps, on fera le bilan, on verra ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est la raison pour laquelle les instructions ministérielles vont paraître seulement en 1938, c'est-à-dire en faisant le bilan de ce qui a marché ou pas. Et de façon générale, il va beaucoup procéder par expérimentation de cette façon-là. Pourquoi aussi? Parce que, faut pas croire, il a fait beaucoup de choses, mais il a rencontré beaucoup de résistance.
Autant de réformes impulsées par le jeune ministre qui seront autant de révolutions dans cette école jusque-là élitiste. Aujourd'hui, cette école inégalitaire-là n'existerait plus, du moins en apparence. Et le collège unique et les 80% d'une classe d'âge au bac semblent tout à fait coulés de source. Mais en 1936, ces réformes de Jean Zay sont pour certains un dangereux et subversif chambardement de l'ordre social reproduit dans cette école de classe. Mais dans quel monde bolchevique va-t-on si les enfants d'ouvriers peuvent accéder à la même école que celle des enfants de bourgeois ?
Il y a une action très précise là. C'est en effet une école très inégalitaire. C'est-à-dire que prenez par exemple un enfant de 9 ans. Il y a deux possibilités. Soit l'école primaire qui se continue après par le primaire supérieur. Et puis à côté, il y a le lycée avec les classes de petit lycée, comme on disait, et ensuite le lycée qui va jusqu'au baccalauréat. Eh bien, ce n'étaient pas les mêmes enfants qu'allaient. Ceux qui allaient dans le primaire, primaire supérieur, c'était les enfants de classe, pas défavorisée, mais en gros de classe qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Cet enseignement était gratuit depuis Jules Ferry. Ce n'étaient pas les mêmes enseignants, ce n'étaient pas les mêmes programmes. Et dans les classes de lycée, petit lycée, c'était payant. Et donc, on voit tout de suite le critère de classe. Donc, il y avait ces deux filières, en effet, très connotées socialement. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les enfants de 9 ans iront dans la même école. C'est-à-dire, il va unifier horizontalement toutes ces filières avec les mêmes profs ou instituteurs, les mêmes programmes, les mêmes formations des profs. Donc ça, c'est une démocratisation fondamentale.
Quand je vois les vignettes où, en 36, les premiers congés payés, ces salopards à casquettes qui viennent polluer nos plages. En plus, leurs gamins viennent aussi polluer nos écoles, finalement.
Les pères ont fait la guerre ensemble et les enfants peuvent bien user leur fond de culotte sur les mêmes bancs d'école. Il y a une très belle idée là de démocratisation du système.
Combien de bacheliers ?
Oui, je ne suis pas spécialiste des questions d'éducation, mais ce que dit Antoine Pro, c'est qu'à l'époque, le ministère de l'Éducation nationale est un petit ministère. Ce n'est pas du tout l'énorme ministère de maintenant.
Aujourd'hui, là, bon, depuis les réformes Jospin, 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, ce n'est absolument pas le cas dans les années 30. C'est une frange infime de la population qui accède au bac.
Dans les lycées, il y a très très peu de lycées. C'est un chiffre dérisoire, oui, tout à fait, oui. Puis même après la guerre, moi par exemple, j'ai passé l'examen d'entrée en sixième. Tous les enfants n'allaient pas, ce qu'on appelle le collège unique va venir un peu plus tard. En tout cas, alors, il crée en effet, vous l'avez dit, la classe d'orientation, ce qui est très nouveau aussi. Et ça va en même temps que cette unification des filières, parce que si les enfants sont tous dans la même école, avec le même enseignant, il faut qu'arriver en sixième, on les observe pour voir quelles sont leurs capacités, leurs goûts. Donc, il invente la classe d'orientation. Il va y avoir des expérimentations qui vont être faites aussi. Alors, il va réformer les programmes. Bah, il dépoussière la pédagogie. Il y a un symbole de ça, c'est Célestin Freinet, qui est le fameux pédagogue qui, quand le Front populaire arrive, on allait fermer son école parce qu'il avait des méthodes trop modernes. Vous savez, Freinet, c'est celui qui...
Des écoles freinées.
Oui, c'est ça. C'est le journal scolaire, c'est sortir, c'est... Ouais, méthode active, comme on dit. Eh bien, en 36, Jean-Zay, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il rouvre son école, mais il va promouvoir ses idées. Et par exemple, une après-midi par semaine, il décide que les enfants vont sortir de la classe. Jusqu'alors, les enfants allaient du lundi 9h au samedi 16h à l'école. Là, il dit qu'il y aura une après-midi d'activité à diriger, où on va sortir les enfants, on va les emmener à la campagne, dans une usine, dans un musée, alors évidemment avec une exploitation pédagogique. Et puis, il dit aussi une heure d'éducation physique par jour à l'école.
Il introduit le sport à l'école.
Pourquoi c'est très important? Parce que le sport jusque-là appartenait à l'armée. Et dans les pays totalitaires, le sport c'est quoi? C'est un instrument de propagande, de formatage des jeunes. Et donc le fait de scolariser le sport, de l'introduire à l'école comme support pédagogique, c'est une façon de lutter contre ces régimes. On peut voir toute l'œuvre de Jean-Zay à la fois sur le plan éducatif et culturel, sous l'angle de ces réformes, mais aussi pour résister à ces propagandes venues de l'Est. La culture, c'est pareil, développer la culture, populariser la culture, comme on disait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir les théâtres, ouvrir les musées, permettre à tout le monde d'entrer, et non pas que ce soit réservé à une élite, surtout à l'heure où on décrète les congés payés. Donc ça veut dire que les gens vont avoir du temps, donc il faut leur permettre de meubler ce temps, d'aller dans les musées, etc., pour former l'esprit du citoyen, lui donner les outils intellectuels, si vous voulez, pour résister à toutes les propagandes. Alors on a parlé de l'enthousiasme extraordinaire du Front populaire, c'est vrai. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est une époque extraordinairement tendue. La France, elle est cernée, là. Il faut voir ce qu'il y a aux frontières. Il y a toutes ces tensions internationales. Il y a les tensions intérieures. C'est l'extrême droite qui cherche à abattre la République. Février 1934, Donc c'est vraiment une période de lutte. Hein. Donc c'est à la fois une période dont on a la nostalgie, d'une certaine façon, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est une période très dure en même temps.
La culture pour éclairer, notamment contre les barbaries fascistes qui cernent les frontières de la France de 1936 et qui la rongent aussi de l'intérieur. C'est ce qui amène Jean Zay à créer le Festival de Cannes, et ce n'est pas la seule chose que le cinéma français doive aux jeunes ministres.
Absolument.
Bien entendu, le festival, ne l'oubliez pas, durera du 1er au 20 septembre. La Côte d'Azur est un cadre unique. Du reste, les préparatifs se poursuivent activement à Cannes. Les travaux d'aménagement du hall du casino transformeront celui-ci en une salle luxueuse qui contiendra 1000 places. Nous espérons ainsi que le Festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation, de l'accueil et du goût français.
Cannes, pourquoi ? D'abord, mon père adorait le cinéma. Ma mère nous racontait souvent que quand il avait un moment, il lui téléphonait du ministère, il disait « Bon, tu te prépares, ce soir, j'ai 2 heures, on va au cinéma. » Donc il adorait ça. Le cinéma était en pleine crise hein, à cause de l'arrivée du parlant. Il y a un film qui vient d'être tourné et qui s'appelle « Jean Zay, ministre du cinéma ». Il a une œuvre du point de vue du cinéma qui va être déterminante, et ça c'est très peu connu. Il va faire un statut du cinéma. C'est lui qui va inventer par exemple l'avance sur recette, enfin la notion d'auteur, bon, etc., etc. Il crée le Grand Prix du cinéma. Et en 1938, il y avait un festival international à Venise. C'était la Biennale de Venise. Tout le monde s'y rend. Le jury décide le palmarès, qui devait revenir, je crois, un film de Renoir. Et au dernier moment, Hitler va imposer son palmarès. Premier prix, Les Dieux du Stade, film de propagande. Deuxième prix, je crois, La Gendre de Mussolini. Enfin. Donc, le délégué de la France revient furieux, tous les pays s'en vont et disent qu'ils ne remettront jamais les pieds évidemment à Venise. Et c'est là que l'équipe de Jean Zay et Jean Zay lui-même vont décider de proposer un festival de cinéma dans un pays démocratique où tous les films soient acceptés, qu'il soit un festival international. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va le construire de janvier 1939 à août 1939. Donc, on choisit une ville. Alors, il y avait plusieurs villes sur les rangs. Il y avait Biarritz, il y avait Cannes, il y avait Vichy. On choisit la programmation. Alors, il y a une trentaine de films qui étaient sélectionnés, etc. Bref, on fait en sorte que le 1er septembre 1939 ouvre le festival de Cannes. Tout est prêt. Les stars américaines ont déjà franchi l'Atlantique, sont dans les hôtels de Cannes. Il y a une grande fête d'ailleurs et le festival doit s'ouvrir le 1er septembre. On a les affiches. Et puis, bon, le 1er septembre 1939, vous savez ce qui arrive. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce festival de Cannes, qui était prêt, c'est à la fois un geste culturel, mais aussi un geste politique de résistance. Et je crois qu'il faut le voir, y compris rappeler ça à ceux qui s'occupent du festival de Cannes actuellement. Il paraît que l'année dernière, à la séance de clôture, ils en ont parlé.
Le Festival international du film a-t-il pour but, monsieur le ministre, de remplacer la Biennale de Venise, comme on l'a affirmé à maintes reprises ?
Jamais les organisateurs de ce festival n'ont envisagé la question sous cet angle. Le Festival international n'est pas créé dans le but de combattre des manifestations déjà existantes et encore moins de les imiter. Le règlement même le prouve. Il s'agit avant tout pour notre pays de réunir dans un cadre purement français, à la fois magnifique et somptueux, l'art et l'élégance de tous les pays du monde. Et chacun conviendra que nul pays, mieux que le nôtre, ne pouvait présider à une telle manifestation dans un esprit d'objectivité artistique et d'impartialité absolue.
Mais la France, en tant que pays invitant, s'est-elle réservé certains avantages ?
Aucun, absolument aucun. Elle n'a voulu ni d'un jury purement français, ni même d'une majorité dans un jury.
Comment cela, monsieur le ministre ?
Eh bien, elle n'a droit dans le jury, tout comme les autres nations participantes, qu'à une seule voix. Et les films français ne bénéficieront pas de récompenses spéciales réservées à notre pays.
dans les autres domaines artistiques, là aussi, il a une œuvre très novatrice. D'abord, les musées. Quand je dis « il », c'est toujours son équipe, hein, mais lui, le politique, c'est lui qui permet que tout ça advienne.
La création du musée des arts et traditions populaires, voilà. Le palais de la découverte aussi, c'est lui. J'y suis allé quand j'étais gamin, moi, me faire dresser les cheveux. Donc c'est grâce à Jean Zay que je me suis fait tenir les cheveux tout droit avec l'électricité statique.
Alors le palais de la découverte, il est créé pour au moment de l'exposition universelle de 1938 et il va être pérennisé par Jean Zay. Même chose pour le palais de Chaillot, hein, qui va devenir le TNP. Le musée de l'homme aussi, est créé à ce moment-là. Le musée d'art moderne, j'en oublie. Et par exemple, je prends l'exemple du musée de l'homme, avec une conception nouvelle du musée. C'est-à-dire le musée doit bien sûr présenter des collections, mais doit être aussi un lieu de recherche, un lieu d'enseignement supérieur et un lieu d'éducation populaire.
Pas étonnant que ce sera plus tard un lieu de résistance avec un fameux réseau.
Absolument, ça sera un des premiers réseaux de résistance. D'ailleurs, où il y a des gens qui étaient au cabinet de Jean Zay qui vont rentrer tout de suite dans ce réseau du musée de l'Homme. Il soutient le théâtre, par exemple, les jeunes compagnies qui, à l'époque, n'étaient pas subventionnées. Il va réformer la Comédie française qui était en train de s'assoupir et de s'empoussiérer. Donc, quand il arrive au ministère, on lui dit « Oh là là, faut surtout pas toucher à la Comédie française, c'est un nid de crabe, faut surtout pas y toucher. » Évidemment, il ne suit pas ce conseil, il va nommer un nouveau directeur en lui disant « Vous avez carte blanche, maintenant le ministère ne se mêlera plus de la programmation, etc. Vous avez carte blanche, je mets auprès de vous quatre des plus grands metteurs en scène de l'époque, c'est le fameux cartel, Jouvet, Batty, Dulin, j'en oublie un. » Et puis, en quelques mois, la Comédie française redevient une des premières scènes internationales. Bref, c'est une politique qui encourage les artistes, qui les soutient. En matière de peinture, il y a une politique d'achat, y compris de peintres un peu modernes. Enfin, c'est le rôle d'un ministère que d'aider l'art contemporain. Pas révolutionnaire, hein, mais voilà, d'aider quand même des peintres contemporains. Même chose, il commande des œuvres à des musiciens. Enfin bref. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais même, il y a quelque chose qui est très peu connu. Il a voulu faire la même chose pour la musique que pour le cinéma. C'est-à-dire, il y avait un festival à Salzbourg, qui est en Autriche. L'Autriche était sous le pouvoir nazi. Et donc, il pense à faire aussi un festival en France. Mais ça, il n'aura pas le temps de le fabriquer et de le faire. Mais la presse d'extrême droite, moi j'ai lu un article du sinistre Lucien Rebatté qui disait comment la musique française aux mains du juif Jean Zay. Le style de l'antisémitisme de l'époque.
Avec ces révolutions scolaires qui l'impulsent aussi, on va aussi, je crois, le qualifier de ministre de la récréation nationale ou des choses comme ça.
Oui, parce que ces activités dirigées dont je vous ai parlé, là, ça consiste à sortir les enfants, on va dans les champs, etc. Donc là, en effet, une partie de l'opinion se déchaîne, surtout la droite, en disant, mais enfin, on ne fait plus rien à l'école. Comment on sort les enfants, on ne fait plus... Et alors, en effet, on l'appelait le ministre de la paresse ou bien de la récréation nationale. En fait, toutes ces idées-là vont être prises à la libération et la démocratisation dans l'enseignement, ça va donner les classes nouvelles. D'autant plus que des gens qui ont travaillé avec lui à la libération vont reprendre ce qui était en cours, ils vont faire achever. Il n'a pas eu le temps de tout achever non plus, hein, parce qu'il n'a pas eu le temps. Je vais prendre un exemple, c'est l'ENA. Ce n'est pas très connu aussi, mais c'est Jean Zay qui a créé l'ENA, École Nationale d'Administration, qui a une très mauvaise réputation actuellement. Mais quand il l'a créé, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'ENA? Il veut créer une école où tous les étudiants, quelle que soit leur situation sociale, pourront rentrer. Pourquoi ? Parce qu'il existait une école libre des sciences politiques, école privée, donc où il fallait payer. Donc évidemment, qui recrutait une élite. Et c'est cette élite-là qui devenait haut fonctionnaire de l'État. Donc lui, il veut démolir ce recrutement de classe et créer une école où tous les enfants, évidemment aptes, tous les jeunes, puissent entrer. Et donc, il dépose le projet de loi de l'ENA sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui va le voter. Mais il va y avoir une telle opposition de l'École libre des sciences politiques et des députés de droite et des sénateurs de droite que le projet va être bloqué au Sénat. La guerre arrive, donc il est à moitié voté. Et à la Libération, c'est Michel Debré qui va reprendre ce projet. Et donc, même chose que pour Cannes. Beaucoup de gens pensaient que Cannes était né après la guerre. Bien, beaucoup de gens pensent que l'ENA a été créée après la guerre. Alors c'est vrai que physiquement, la première ENA a vu le jour après la libération, mais le projet tous, c'est Jean Zay aussi. Mais on a oublié à la libération de dire qui est-ce qui était à l'origine de ça.
On l'a dit, la fragile coalition de Front Populaire Français qui a très peu de marge de manœuvre fait presque figure d'anomalie dans une Europe couverte de régimes autoritaires. Les vrais dirigeants des pays en sont les dirigeants économiques dont en France le cri de guerre est plutôt Hitler que le Front Populaire. Milieux économiques qui apprécient donc ces régimes fascistes, voire même qui les encouragent, voire même qui les financent depuis des années. Ah oui, les fascistes sont peut-être des voyous brutaux, mais au moins avec eux, les ouvriers ne peuvent plus réclamer d'augmentation de salaire. C'est ainsi que les démocraties occidentales laissent les nazis reconstruire la puissance militaire de l'Allemagne, posture d'apaisement qui annonce la politique munichoise qui, pour la France et l'Angleterre, consistera à trahir leurs alliés tchèques en 1938 et alliés polonais en 1939, livrés à Hitler en échange d'une illusion de paix. Et en 1936, sur le principe de plutôt Franco que le Front Populaire Espagnol, France et Angleterre laissent le fasciste Franco déclencher la guerre d'Espagne qu'il emportera en 1939 avec le soutien d'Hitler et de Mussolini et aussi des dirigeants économiques occidentaux. On le répète, Léon Blum a une très faible marge de manœuvre au Parlement et les radicaux de la précaire coalition de Front Populaire menacent de s'en retirer si la France vient en aide à la République espagnole. Mais pas Jean Zay qui, bien que radical, milite lui pour le soutien aux républicains d'Espagne. En septembre 1936, Léon Blum tient un discours désespéré et désespérant pour tenter de justifier l'abandon de la démocratie espagnole, trahison, diraient certains, qui en annonce bien d'autres.
Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas? Croyez-vous, quand je lisais comme vous le récit de la prise d'Irun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Si on me demande de revenir sur la position du gouvernement et de déchirer le papier que nous avons signé aujourd'hui comme hier, je réponds non. Je n'admettrai jamais que la guerre soit inévitable et fatale jusqu'à la dernière limite de mon pouvoir et jusqu'au dernier souffle de ma vie, s'il le faut.
Mais le vrai pouvoir, ce n'est de toute façon pas Blum qui l'exerce, mais les milieux économiques devant lesquels les politiques sont pieds et poings liés, quand les hommes politiques ne sont d'ailleurs pas directement les vassaux et les obligés du capital. Preuve parmi d'autres que les milieux financiers français ont tout fait pour couler la République espagnole, en attendant de faire la peau de cette gueuse de République française, comme il disait. L'or que la jeune République espagnole avait confié quelques années plus tôt à la Banque de France, à l'époque organisme privé dirigé par les représentants des 200 plus riches familles françaises, cet or espagnol, la Banque de France ne voudra pas le restituer à la République espagnole qui le lui avait confié et qui en a besoin pour lutter contre Franco. Bien au contraire, des administrateurs de la Banque de France feront tout pour que cet or soit volé à la République espagnole et remis au putschiste Franco, ce qui sera fait.
Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un débat très vif au sein du gouvernement, que Jean Zay était plutôt partisan de l'aide aux républicains espagnols, avec Pierre Cotte par exemple. Et Blum, bon, il va prendre la décision en effet de ne pas aider les républicains espagnols, alors que l'Allemagne arme les fascistes, hein, Franco, mais il va quand même fermer les yeux. Vous savez qu'il y a quand même des armes qui passent en Espagne, de façon clandestine évidemment, via Pierre Cotte, qui est ministre, et dont le directeur de cabinet est Jean Moulin. Il va y avoir quand même en sous-main, bon, Blum le savait, je pense, et ferme les yeux, quoi. Mais c'est pas officiellement une aide.
Et voilà, les amis, c'est sur ce douloureux chapitre de l'abandon de la République espagnole que s'achève ce premier volet d'entretien avec Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean Zay, que nous remercions, avant de la retrouver au prochain épisode de cette série qui nous rappelle que nous vivons encore aujourd'hui sur le formidable héritage que Jean Zay nous a légué. Homme intelligent et courageux qui payera au prix fort ses engagements et notamment son antifascisme, puisqu'en juin 44, après 4 années de captivité, Jean Zay sera lâchement assassiné, non pas par des nazis allemands, mais par des miliciens français. On en reparlera au prochain épisode et vous pouvez en attendant réécouter cette émission sur notre site polemix et la voix off.com. Salut.